Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Guillaume Ernest. On va parler, effectivement, c'est un sujet de fond des rapports entre les États-Unis et l'Europe, donc les relations transatlantiques qui sont mises à mal depuis longtemps d'ailleurs. Notre invité est Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques, auteur de nombreux travaux sur la question. Une vérité d'évidence, les relations transatlantiques ont été profondément bouleversées par la fin des rapports Est-Ouest, 1989-1991. D'abord, les États-Unis avaient beaucoup évolué, la présidence Bush-fils avait basculé dans l'isolation, qui n'est pas l'unilatéralisme, lequel est le cœur de métier des Américains. Ensuite, les Européens, eux, n'ont jamais été vraiment unis depuis la chute du mur de Berlin. Ils ont même été désunis en matière de politique étrangère. Il suffit de citer la guerre du Golfe, la guerre de Yougoslavie, la guerre d'Irak 2003, la relation à l'Iran, l'Ukraine, le chaos actuel du monde arabe, le partenariat transatlantique sur le commerce et les investissements, etc. Et puis l'Alliance Atlantique n'est plus l'Alliance Atlantique. C'est surtout une structure difficile à diriger par Washington. Le dossier syrien, en plus, est l'illustration complémentaire de cet état des lieux. Donc, sur l'ensemble de ce dossier, Frédéric Charillon.
Il y a un paradoxe, parce que d'une part, elles sont toujours là, ces relations transatlantiques, qu'on disait essentiellement scellées, cimentées, soudées par la guerre froide, qu'on estimait que les relations transatlantiques étaient d'abord une relation d'alliance contre un ennemi, et une fois l'ennemi disparu, on pensait que cette relation allait dépérir, ça n'a pas été le cas, l'OTAN existe toujours, mais néanmoins, elles sont quand même, et c'est là le paradoxe, elles sont quand même en crise, c'est-à-dire elles sont très fortes, mais en crise, très fortes, parce que, comme on l'a dit, l'alliance est même non seulement toujours existante, mais c'est le seul outil militaire important qui reste dans le monde aujourd'hui.
Et c'est le seul outil de défense collective.
C'est le seul outil de défense collective. Économiquement, on le voit avec la négociation, mais difficile, mais une négociation quand même sur un grand marché, sur un accord transatlantique de libre-échange. C'est une relation qui est structurante toujours dans les relations internationales, mais néanmoins, elle est en crise. Alors, elle est en crise pour une raison que tout le monde connaît, c'est qu'elle est relativisée par le poids croissant du Pacifique et de l'Asie. Bon, passons là-dessus, tout le monde le sait. Elle est également en crise parce que beaucoup de choses se sont passées qui n'étaient pas du tout prévues il y a encore quelques années. D'abord, la résurgence effectivement d'une menace russe sur les membres orientaux, on va dire, d'Europe orientale en tout cas, de l'Alliance Atlantique, qui pose un problème parce que la peur est revenue dans une partie de l'Alliance Atlantique mais pas forcément dans l'autre. C'est une relation en crise également parce que l'Europe n'est plus un pilier de cette Alliance Atlantique aussi fort qu'on aurait pu le penser. Il y a encore quelques années, on créait une politique étrangère et de sécurité commune, on espérait une force militaire européenne. Tout cela est aujourd'hui totalement hors d'atteinte. Nous le voyons bien, ça n'est plus un objectif tenable. Donc les États-Unis se retrouvent un peu seuls face à une Europe qui se détricote, pour dire le moins. Donc à cet égard, effectivement, les États-Unis ont aujourd'hui en Europe un partenaire extrêmement affaibli. Ça ne peut pas faire autrement que d'affaiblir la relation transatlantique, même si celle-ci reste extrêmement importante.
Alors, d'une certaine façon, on peut dire, c'est un des pans essentiels, c'est que les États-Unis eux-mêmes ont affaibli la relation transatlantique sous la présidence Bush-fils, notamment dans l'affaire d'Irak, qui a été constitué une sorte de bélier à l'intérieur de l'Europe, puisqu'il y avait autant d'États qui étaient contre l'intervention, projet d'intervention en Irak que pour.
Oui, alors il y a même eu un double mouvement d'affaiblissement de cette relation, d'incompréhension. Alors c'est peut-être dû à un calendrier politique de part et d'autre de l'Atlantique qui a fait qu'il y a eu une crise de confiance. Il y a eu, vous avez raison de le rappeler, il y a eu sous les années Bush, dans les années 2000, une crise de confiance très forte parce que les États-Unis étaient perçus comme une puissance dangereuse, guerrière. Et puis sous Obama, on a presque la crise de confiance inverse. C'est-à-dire qu'on a au contraire des Européens qui entre-temps sont devenus eux-mêmes peut-être d'abord plus inquiet de la situation internationale, plus interventionniste aussi. Le cas de la France est frappant. Quelle différence entre la France de Chirac 2003 qui refuse d'intervenir en Irak et la France de Hollande, 10 ans ou à peu près plus tard, qui intervient à de multiples reprises. Des Européens plus interventionnistes qui, alors là, au contraire, se retrouvent devant un président Obama qu'il trouve intellectualiste, à la limite, hésitant. Et qui a provoqué...
Irrésolu d'une certaine façon.
Et la crise syrienne, enfin le refus de l'administration américaine Obama d'intervenir en Syrie en 2013 a été, au moins pour les Français, un facteur de crise de confiance extrêmement fort. Donc, pour des raisons pratiquement à front renversé, on a successivement deux crises de confiance. La première parce que les Européens trouvent les Américains trop belliqueux et ensuite parce qu'ils les trouvent au contraire trop timorés. Et aux États-Unis, pourtant, la critique, elle, est constante. Les Européens ne font pas assez pour leur défense.
Ce qui est une vraie critique.
c'est une vraie critique. Il y a plus de les budgets de défense en Europe sont extrêmement faibles. Tout le monde, même les deux grandes puissances que sont la Grande-Bretagne et la France, ont des gros problèmes, ou en tout cas ils sont à leur limite d'intervention ou de capacité militaire, même si ça reste deux outils importants. Et c'est vrai que les États-Unis répondent à nos critiques que tout ça ce sont des atermoiements. En réalité, regardons les chiffres, nous disent-ils, qui a l'outil et qui a le budget, c'est nous, faites un effort.
Alors, il y a une chose intéressante dans les relations transatlantiques, c'est la permanence finalement du rapport à Moscou, c'est-à-dire 25 ans après la mort de l'Union soviétique, du rapport à Moscou, et on l'a vu d'une façon éclatante dans le dossier ukrainien en 2014.
Oui, alors avec une différence néanmoins, c'est que du temps de la guerre froide, c'était clair, c'était net, il y avait un adversaire. Cet adversaire, c'était l'Union soviétique.
Il était désigné par la France.
Il était désigné et on essaie de composer avec l'adversaire. Aujourd'hui, c'est très différent, c'est qu'on n'arrive pas encore à se résoudre à qualifier la Russie d'adversaire. Il y a encore beaucoup d'hésitations de part et d'autre de l'Atlantique. On ne sait pas quoi faire de cette puissance russe. Certains expliquent son comportement par une force résurgente, d'autres au contraire par sa grande faiblesse, notamment sa faiblesse économique. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si Moscou est un adversaire ou reste encore un partenaire dans une sorte de désamour qu'il faudrait tenter de récupérer pour travailler ensemble. Regardez en Syrie, les États-Unis aujourd'hui travaillent avec les Russes sur la situation syrienne et c'est même un petit peu ce qu'on leur reproche en Europe et ce que beaucoup de pays au Moyen-Orient leur reprochent, c'est d'avoir ravivé en quelque sorte l'espèce de condominium ou en tout cas de partenariat américano-russe qui exclut le dialogue avec les autres. Donc on ne sait pas aujourd'hui quoi faire de la puissance russe qui menace le flanc oriental de l'OTAN et de l'Union européenne par la rhétorique mais aussi par des déstabilisations et qui en même temps reste un partenaire pour la sécurité.
Alors, il y a une chose intéressante, c'est la permanence quand même des divisions des Européens en matière de politique étrangère. Ça ne fait pas un sous-ensemble, on va dire, cohérent.
Non, ça toujours, malheureusement, depuis le début, je pense que l'affaire de la politique étrangère commune de l'Union européenne, elle est mort-née, en quelque sorte, dès sa proclamation, c'est-à-dire le début des années 90, on annonce une grande politique étrangère et de sécurité commune, on se retrouve face au drame des Balkans et de l'ex-Yougoslavie. Et
Sur le sol européen.
Et chez on voit que nous ne sommes pas à la hauteur de cet enjeu. On ne se rattrapera jamais après. Il n'y a pas... Non seulement il n'y a pas 28 politiques étrangères qui n'en font qu'une, mais je crois même qu'il n'y a pas 28 politiques étrangères en Europe. Je pense qu'il y a des pays qui ont une politique étrangère et une vision, d'autres pour lesquels la politique étrangère se résume à une question, c'est de savoir s'il faut ou non suivre les États-Unis.
Oui, la relation aux États-Unis, alors on est au cœur même de la relation transatlantique. Il y a une chose aussi qui frappe dans la relation transatlantique, c'est le fait qu'elle n'est plus motrice, si elle n'a jamais été du temps de la guerre froide, dans les grands dossiers mondiaux.
Non, elle reste quand même une relation forte, parce que quand on regarde les interventions militaires, quand on regarde les résolutions aux Nations Unies, les initiatives diplomatiques, on voit quand même que ce partenariat euro-américain, donc transatlantique, il est toujours présent, il fonctionne encore. Maintenant, effectivement, il est extrêmement relativisé par le Pacifique, par l'Asie, par les autres continents et les autres pays émergents. Moi, je dirais que en poids relatif, il a baissé. En existence absolue, il existe toujours, ce partenariat.
Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques, pour le réécouter, franceculture.fr, pour le télécharger également. Et puis demain, nous allons parler de l'Inde avec Jean-Luc Racine, comme nous l'avions fait récemment à propos de la Chine. Nous allons essayer de voir quelle est la politique énergétique de l'Inde. Donc encore une fois, franceculture.fr.